Rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé d'atelier. Effectivement, je ne m'appelle pas Philippe Moore ni Reynald Kosicki et je ne fais qu'introduire l'atelier. Donc cet atelier s'intitule « Évangile, puissance de transformation ». Tout un programme. C'est quelque chose, j'imagine, qu'on a déjà entendu, on sait très bien, puisque vous êtes pour la plupart, en tout cas responsable, pasteur, que l'Évangile ne se limite pas au salut, mais qu'il accompagne la vie du chrétien. Mais si vous êtes comme moi, on a toujours cette tentation à aller chercher ailleurs les ressources pour notre transformation et notre sanctification. La tentation est grande. Et donc, nous comptons sur cet atelier, en tout cas, pour nous rappeler, en tout cas, que l'Évangile est effectivement une puissance de transformation. Alors, ceux qui vont nous apporter cette réflexion, vous les connaissez, enfin, en tout cas, vous avez lu leur présentation, Philippe Moore et Reynald Kosicki, donc Philippe Moore qui est pasteur des églises baptistes, de l'association baptiste. Alors, ce sont deux pasteurs multicasquettes, puisque chacun d'eux a des responsabilités par ailleurs dans leur mouvement, dans leur église, dans leur union d'église. Philippe Moore est responsable aussi de l'implantation d'église et lui-même directeur d'une CFRI, donc Centre de Formation Régionale à l'Implantation. Et Reynald Kosicki, lui, donc, est engagé en tant que responsable aussi dans la CAEF, mais aussi responsable donc, au niveau du réseau FEF. Ce qui n'est pas marqué dans les présentations, c'est que Philippe Moore, lui, c'est un grand sportif, passionné de vélo. Donc, il aime... il n'a pas dit ça, il dit.
Il dit que j'aime le vélo.
C'est vrai. Mais si, je... voilà, je traduis. Donc, il aime aussi beaucoup la musique. Reynald, quant à lui, il aime des sports un peu plus calmes, la lecture. La musique aussi, c'est vrai, t'es musicien. Voilà, je propose d'introduire simplement ce temps par la prière. Et au lieu de prier une pauvre prière venant de moi-même, je vous propose simplement de lire cette prière de Paul aux Éphésiens, pour les Éphésiens et pour nous cet après-midi. Donc Éphésiens chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Juste un dernier mot. Notre atelier donc, va se dérouler par un exposé des orateurs, donc pendant une petite cinquantaine de minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à préparer les questions, puisque nous aurons ensuite une demi-heure donc, de questions-réponses. Donc profitez en tout cas de ce temps pour poser vos questions. À vous.
Voilà, j'aimerais dire que c'est une joie pour moi de pouvoir vous parler cet après-midi et aborder la question, n'est-ce pas, de A à Z. On va tout dire cet après-midi avec Philippe concernant la puissance de transformation de l'Évangile. Vous doutez bien qu'on va donner une très petite introduction simplement sur la question, plus modestement. Donc on va essayer de donner quelques pistes de réflexion et je pense que vous êtes déjà convaincus de ce que l'Évangile, comme cela nous a été dit à l'introduction, est réellement une puissance de transformation. Mais dans quel sens? Jusqu'où? Quels sont les obstacles à cette puissance de transformation? C'est ce qu'on va essayer de voir. On va le voir en fait en deux temps. Je vais commencer moi par vous donner un exposé sur l'Évangile de puissance de transformation dans un sens plus personnel dans notre relation avec Dieu. Et puis donc, Philippe, mon collègue, va apporter une autre perspective en suivant un peu le plan de l'Épître aux Romains à savoir puissance de transformation relationnelle. Alors, c'est vrai qu'on aimerait... On aimerait beaucoup voir cette puissance de transformation à l'œuvre. Souvent on dit que c'est que dans les périodes de réveil qu'on voit l'évangile comme une puissance de transformation, mais heureusement, nous l'avons certainement, pour la plupart d'entre nous, peut-être tous, expérimenté à des degrés différents. Et le défi pour nous, là, dans ce temps d'atelier, ça va être de réfléchir comment essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, d'abord, je vais... parler de quelques textes de Galates, puisqu'on est immergé dans Galates, n'est-ce pas ? Ce matin, vous avez entendu déjà des choses très intéressantes sur l'Épître aux Galates. Eh bien, l'Épître aux Galates est un des livres du Nouveau Testament qui nous donne un tableau de ce qu'est l'Évangile, un tableau très pertinent, très puissant. Alors, je vais donner quelques citations simplement, même si ce matin déjà quelques aspects ont été abordés. Nous allons voir que l'évangile, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, quand vous entendez le mot évangile, bon, pour certains c'est simplement le fait d'aller annoncer l'évangile à vos personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais l'évangile ça va beaucoup plus loin que cela. L'évangile, dans l'Épître aux Romains, l'introduction, nous dit c'est une puissance, il est littéralement puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce que dans cet évangile est dévoilée la puissance de Dieu pour le salut, et le mot salut on peut le traduire de plusieurs façons, pour la délivrance, pour l'affranchissement de tous ceux qui croient. Alors l'évangile dans l'Épître aux Galates, comme dans tous les textes du Nouveau Testament, nous est présenté comme cette puissance de libération. Le premier texte que vous voyez apparaître, c'est l'introduction sur laquelle Henri Blocher ce matin nous a donné quelques éléments. Je lis dans la version Semeur 2, parce qu'il y a plusieurs traductions Semeur, et c'est intéressant cette version Semeur. Le Seigneur Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, au chapitre 1, verset 4, afin de nous délivrer du présent monde mauvais. Dès les premiers mots, lorsque l'apôtre Paul veut introduire cet évangile, vous l'avez lu ce matin, nous l'avons entendu ce matin, eh bien il explique que l'évangile... eh bien, se centre bien sûr sur Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle même qui se centre sur une personne, sur Jésus, mais aussi sur le message et la puissance de vie qui est en lui. Et quand Paul veut simplement introduire ce sujet avant d'entrer dans le détail, puisque c'est surtout au chapitre 2, dans les versets 17, 16 à 20, qu'il va concentrer là le cœur de ce message de l'évangile pour le développer dans les chapitres suivants, eh bien, il donne juste un petit avant-goût de ce qu'est cet évangile dans ce verset 4, pour dire que Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés et pour nous délivrer du présent âge mauvais. C'est intéressant que Jésus est venu pour nous, on voit les deux grandes facettes de l'évangile dans ce verset, pour régler la question du péché, notre culpabilité, mais aussi pour nous permettre d'être comme arrachés aux forces des ténèbres, aux forces du mal, aux puissances qui sont à l'œuvre dans ce monde, dans la loi, pour nous permettre aujourd'hui de vivre en nouveauté de vie. Le deuxième texte que je donne, c'est justement le cœur de l'évangile que Paul va donner. Bon, je ne donne que les versets 20-21, on aura l'occasion de les entendre aussi commenter. Paul dit « Par la loi, moi je suis mort à la loi ». Il le fait à partir de son propre témoignage. J'ai beaucoup apprécié ce que nous disait ce matin Tim Keller. Effectivement, l'évangile, Paul en parle comme une réalité non pas théorique, ce n'est pas simplement des beaux principes, mais c'est quelque chose qui a bouleversé complètement sa vie. Et je pense qu'ici aussi, un certain nombre de personnes pourraient parler de cet évangile qui n'est pas que de la théorie, mais qui transforme véritablement nos vies. Et quand il parle de son témoignage, il explique qu'il sait, nous savons, il dit aussi pour Pierre et pour tous ceux qui étaient juifs, mais qui sont passés, qui ont compris le message de l'évangile, il dit, nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la fidélité, par la foi en Jésus-Christ, ou la foi de Jésus-Christ selon les traductions. Et juste après, il dit, moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre à Dieu. Je suis crucifié. Je suis ou j'ai été, les deux sont compris dans le temps du verbe. Je suis, j'ai été crucifié, ce n'est plus moi, ou le moi ancien, le monde ancien en moi a été comme brisé, rompu. Moi, il y a eu un virage qui s'est opéré dans ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. On connaît tous ce passage probablement par cœur. Là, Paul récapitule en quelques mots les grandes facettes de l'Évangile, dans le verset précédent aussi, à savoir la justification par la foi, comment Dieu règle la question de notre péché, et c'est certainement le point le plus fondamental, parce que c'est à partir de là que tout bascule lorsqu'on comprend la puissance de l'amour de Dieu qui nous pardonne nos fautes, qui nous remet nos dettes, qui règle cette question du péché, mais qui en même temps, nous justifiant, nous revêt de la justice de Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du chapitre 2, Paul aborde cela aussi de manière existentielle, pas simplement de manière juridique, mais de manière concrète dans notre vie quotidienne pour dire que notre monde ancien, dans l'union avec Christ, a été réglé. Maintenant, en Christ, il y a quelque chose de nouveau. Il le reformule autrement, peut-être plus simplement dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est dans le Christ, uni au Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, comme le disent peut-être les meilleurs manuscrits, le nouveau est déjà là. Et bien là, il dit le nouveau, c'est Christ qui vit en moi. La suite du chapitre nous montre que c'est par l'Esprit de Dieu que Christ vient faire sa demeure en nous. Et il montre qu'il ne s'agit pas non plus d'une sorte de planement dans les nuages mystiques, puisqu'il parle aussi de sa vie maintenant en Christ. Il dit « ma vie dans la chair », ça veut dire « voilà, je suis encore présent, ma vie dans la chair, je la vis dans la foi, dans la confiance, littéralement dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». Chapitre 3, verset 13-14, hein, ce verset 13, c'est probablement l'un des versets les plus puissants, comme Luther l'exprimait dans son commentaire. Paul explique que Jésus s'est livré lui-même. Il a payé pour nous, dans la version de la Tobe, pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. Un peu plus loin. Pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens, en Jésus-Christ, unis à lui, nous puissions bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Et nous apprenons que cette bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est que nous recevions par la foi l'Esprit de Dieu. C'est intéressant que dans le cœur même de l'Évangile, il y a une vie nouvelle, non seulement la justification qui nous permet d'être en règle devant Dieu, mais il y a une union avec Christ qui permet maintenant de recevoir la bénédiction d'Abraham, qui est la vie même de l'Esprit. Donc ça paraît évident, à partir de ces mots, que l'Évangile doit forcément être une puissance de transformation. Et tout le chapitre 5, là je vous lis quelques versets, c'est vrai j'oubliais ça. Oui, merci, si tu peux faire des fils en même temps, parce que j'oublie moi des fois, hein, comme ce n'est pas synchronisé. Paul dit « marchez par l'Esprit » dans la NBS, « et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire ». Dans l'Évangile, il y a ces deux facettes. Cette, je dirais, la façon à laquelle Dieu va régler notre dette en payant pour nos fautes à travers l'œuvre de Christ, mais aussi la puissance de vie que Dieu nous communique par son esprit. Et la deuxième partie de Galates, qui apparaît déjà dans le chapitre 3, versets 13-14, concerne la réception de l'esprit, mais est développée davantage au chapitre 5, pour nous dire que maintenant, par l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit peut être produit. Quel amour, la joie, la paix, la patience, etc. Alors, dans l'Épître aux Romains, l'Évangile, très brièvement, c'est une puissance de délivrance dès les premiers versets. Paul va faire comprendre que pour parler de délivrance et de la façon à laquelle Dieu va régler la question du péché, il nous faut comprendre la gravité du péché. Et moi, j'ai remarqué dans ma propre expérience que il n'y a jamais eu de véritable pas, je dirais, authentique dans le processus de délivrance tant que les yeux ne s'ouvrent pas d'une façon ou d'une autre sur la réalité du péché. Moi, pour parler de mon parcours, hein, j'ai souvenir avoir accepté l'Évangile de manière très théorique. J'avais adhéré, on va dire, intellectuellement à l'Évangile. Je m'étais fait baptiser. J'étais encore dans le monde de l'ésotérisme, occultisme, mais j'avais adhéré à l'Évangile. Bon, les personnes qui me suivaient ne savaient pas que j'étais dans l'occultisme ou l'ésotérisme, mais j'ai vécu une conversion en deux temps. Un premier temps, c'était très intellectuel. Et je dirais que j'avais accepté les grands dogmes, les grands principes de l'Évangile. Et j'avais changé de vie, je venais à l'église, je fréquentais des chrétiens, etc. Et puis, 8 mois après exactement, Dieu m'a amené dans la lecture de la parole à un jour prendre conscience de mon péché. Il y a eu une expérience vraiment forte, un soir où j'ai vu défiler plein de choses de ma vie, c'était assez impressionnant, et où j'ai pris conscience de combien j'étais impur devant Dieu, combien j'étais sale. Et cette prise de conscience que l'Esprit de Dieu a produit a été pour moi un pas gigantesque. Je dirais que c'était le pas fondamental, parce qu'avant c'était préliminaire, mais là c'était vraiment la régénération par la puissance de l'Esprit et la vie nouvelle. Et la question du péché dans nos vies, elle ne peut pas se résoudre s'il n'y a pas un moment ou un autre un éclairage qui vient de la part de Dieu pour en comprendre la portée et la gravité. C'est pour ça que dans les 3 premiers chapitres, Paul va insister très lourdement, dans un vocabulaire extrêmement concis, dans l'Épître aux Romains, sur la gravité du péché. Et ensuite, dans les chapitres 3 et 5, Paul expose cette question de la justification. Comment nous pouvons être en règle avec Dieu, malgré le fait que nous sommes désespérément pécheurs? Eh bien, c'est tout le cœur de l'Évangile, maintenant, sans la loi. La justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus-Christ, comme les prophètes l'avaient annoncé. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais maintenant, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et il nous montre comment, sans aucune œuvre de la loi, parce que Jésus a tout accompli pour nous, nous pouvons recevoir en cadeau sa justice, parce que lui a pris sur nous notre malédiction. Donc nous connaissons certainement toutes ces choses. Et puis ensuite, dans les chapitres 6 et 8, c'est la question du Saint-Esprit, ou la question de la vie nouvelle, la mort avec Christ, la mort à la loi, la mort à la puissance de la chair, pour que l'Esprit de Dieu nous guide dans une vie nouvelle. Donc simplement, c'est quelques citations pour nous dire des choses que nous connaissons certainement déjà, à savoir que l'Évangile est présenté, non pas simplement comme un ticket pour aller au ciel, mais nous est présenté comme une puissance, d'abord de justification, qui nous permet d'être acceptés devant Dieu, d'être pardonnés complètement. Celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation maintenant pour lui. Mais non seulement cela, Dieu change nos vies. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire, un peu comme Luther, hein, quand on découvre la vie nouvelle avec Christ, qu'au moment du baptême, ça y est, maintenant tout est réglé, n'est-ce pas? On a proclamé notre foi. Et Luther, vous connaissez cette parole, hein, célèbre. Il dit, quand je me suis baptisé, je pensais que mon vieil homme allait être noyé. Et puis, il a dit, le bougre, j'ai découvert par la suite qu'il savait nager. C'est vrai que tout n'est pas réglé. Quand on est converti, mais pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de voir très brièvement. Il y a plusieurs obstacles qui nous empêchent d'entrer dans ces réalités spirituelles. Le premier de ces obstacles, c'est que ce n'est pas si simple de le comprendre avec son cœur, avec attention. Comprendre, et Paul dira à plusieurs reprises, par exemple dans Romains 6, « Mais ne savez-vous pas que, ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés dans la mort de Christ, nous tous qui avons été unis à lui pour être dans le Christ Jésus maintenant, c'est dans sa mort que nous avons été plongés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, vous connaissez ces textes. Mais Paul dit, mais ne savez-vous pas que, ou ignorez-vous que, hein, parfois on peut le lire, le relire, mais sans comprendre ces mots. Donc la première chose qui a besoin d'être débloquée quelque part dans nos vies, c'est une compréhension spirituelle. La deuxième chose, je dirais, c'est croire dans ces choses. Paul dira, par exemple, dans Romains 6, verset 8, si nous croyons, nous avons été unis dans sa mort, mais maintenant croyons que nous vivrons littéralement de sa vie, que nous vivrons cette vie nouvelle avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir. Et il dira après, ainsi considérez-vous comme mort au péché. Ce verbe, se considérer, c'est aussi un acte de foi par lequel nous saisissons le cadeau que Dieu nous fait, que maintenant nous sommes véritablement une nouvelle création dans le Seigneur. Donc le deuxième obstacle, je dirais, c'est Dieu veut stimuler notre foi. Et l'incrédulité, malheureusement, peut nous empêcher de passer à côté. Le troisième obstacle sur lequel l'Épître aux Galates appuie énormément, l'Épître aux Romains aussi, surtout dans le chapitre 7, mais aussi dans le chapitre 3, que Paul récapitule bien par cette phrase de 1 Corinthiens 15, verset 56, l'aiguillon, c'est comme l'aiguillon d'une guêpe, là, hein, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et qu'est-ce qui donne la puissance au péché, ou le venin du péché? Paul dit, ça paraît surprenant, c'est la loi. En quoi la loi est-elle la puissance du péché? Ben, c'est tout le thème de Romains 7, de Romains 3, de Galates 2, 3, 4, 5. La loi, en fait, elle est bonne en elle-même, mais elle peut devenir, lorsque nous saisissons mal la dimension de la grâce, elle peut devenir un instrument qui développe le péché dans notre vie. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens que la loi, dans une logique très humaine, nous concentre sur nos efforts, nos mérites, tout ce que nous pouvons faire, finalement, sur notre énergie et nous-mêmes, alors que la grâce nous détache de cela et nous amène à tourner le regard vers le Seigneur. Il y a une façon de vivre sa vie chrétienne centrée sur soi, de manière très légaliste, qui, au lieu de nous libérer du péché, nous en libère peut-être en façade, mais endurcit encore plus le péché dans notre vie. Et c'est à mon avis le thème de Romains 7 où Paul vit cette crise, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, mais misérable que je suis. Et après il donne la réponse, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et puis le chapitre 8 décrit cette libération que maintenant dans le Christ, la loi de l'esprit de vie nous affranchit de la loi du péché et de la mort. La troisième chose qui peut être un obstacle, c'est les interdits de notre passé. Alors c'est vrai que dans cette phrase on pourrait faire des heures et des heures. L'Épître aux Galates et l'Épître aux Romains, on parle très peu de ça, peut-être un petit peu Romains 12, mais c'est surtout peut-être dans le cœur de la prière du Notre Père que nous avons cette phrase « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». J'ai mis les interdits de notre passé dans le sens que parfois nous avons du mal à accepter le pardon de Dieu sur nos fautes. Le diable qui est appelé l'accusateur des frères qui accuse jour et nuit, il a le pouvoir de nous aveugler. Eh bien, nous pouvons, par cet aveuglement, rester sous un sentiment de culpabilité et ne pas comprendre le processus par lequel nous pouvons simplement, comme dit l'apôtre Jean, reconnaître nos péchés, confesser nos péchés, et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier toute iniquité. Parfois, en tant que chrétien, nous pouvons garder un poids de culpabilité. C'est pour ça que régulièrement, nous avons besoin de dire « Pardonne-nous nos offenses ». Et nous avons besoin vraiment de nous approprier ce pardon du Seigneur, de comprendre combien Jésus, à la croix, il a payé pour toutes nos fautes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte à jamais le péché du monde. Et c'est vrai que par sa mort, il a la victoire définitive sur le péché. Mais quand on est aveuglé sur ce point, on porte un poids de culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui est très lourd. Et on peut être parfois même avancé dans la vie chrétienne et pourtant se débattre lamentablement avec cette question de culpabilité. Ne pas comprendre comment Dieu nous accorde réellement un véritable pardon. Malheureusement, j'écoutais un jour un psychanalyste qui parlait de son travail là, sur une radio. Il disait que finalement, si vous voulez résumer en gros son travail en tant que psychanalyste non chrétien, hein, c'était de gérer la culpabilité des gens. Mais je me dis finalement, dans les milieux chrétiens, ceux qui font plus de relations d'aide doivent souvent gérer aussi cette question de culpabilité. Parce que c'est tout simple et pourtant, c'est tellement complexe à pouvoir s'approprier ce pardon de Dieu sur toutes nos fautes. Mais l'autre aussi interdit, que Jésus mentionne au cœur de la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors je ne vais pas entrer dans les grands débats de psychologie et de sanctification, c'est vrai, c'est très complexe, mais je crois personnellement qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans les techniques psychothérapeutiques pour connaître la délivrance. À mon avis, Ce que nous avons besoin de comprendre dans nos vies, c'est comment Dieu règle cette question du péché, mais aussi comment, en réglant cette question du péché, il nous donne la possibilité de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et on sait combien l'amertume va jouer un rôle destructeur dans l'âme du disciple. On le sait, Hébreux 12 nous dit que l'amertume produit du trouble hein, et infecte même les autres. Eh bien, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume, justement, nous. Alors, je crois que la puissance de l'évangile de libération peut être freinée par ces différentes choses qui sont ici, soit notre ignorance de ces réalités, soit notre incrédulité, soit le pouvoir de la loi, soit les interdits de notre passé liés avec notre difficulté à reconnaître nos péchés ou à confesser nos péchés, ou parfois même, alors là, je veux être très prudent avec ça, quand on a péché, fait des choses graves, avouer nos fautes et demander pardon aux personnes à qui nous avons fait beaucoup de mal. Alors c'est sûr qu'il faut être prudent avec ça, parce qu'on peut en faire aussi une espèce d'œuvre par laquelle on va essayer d'acheter son salut. Il y a des milieux, on sait, évangéliques, qui accentuent énormément la question de restitution, le moindre petite faute que tu as fait de ton passé. Il faut tout que tu récupères et règles, sans quoi tu n'auras jamais le pardon. Je n'irai certainement pas jusqu'à là, mais pourtant, il y a besoin, dans certains cas, de régler ces choses. Moi, je sens que personne ne l'explique, mais il y avait des fautes graves que j'ai commises dans ma vie avant d'être chrétien, et Dieu m'a donné la conviction que je devais écrire aux personnes que j'avais offensées, et pour certaines, de régler ces choses. Et alors, jusqu'où ? Voilà, c'est ouvert à la discussion, mais nous devons régler ces questions d'interdit, et de même dans l'autre sens. Quand on garde l'amertume, de la haine dans son cœur, c'est que probablement on n'a pas bien compris le pardon de Dieu, mais on doit régler ça aussi. Et la dernière chose, pour entrer dans la puissance de délivrance, c'est, comme dira Jésus dans Jean 8, versets 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » On voit qu'il y a comme un processus par lequel on s'approprie ces choses. Ce processus, c'est ce qui va permettre à la parole de Dieu de pénétrer véritablement en nous, d'habiter en nous, comme dans le psaume 1, celui qui médite cette parole. Eh bien, cette parole, elle est agissante, elle est puissante. Et c'est cette parole qui, demeurant en nous, nous permet d'aller plus loin dans ce processus de délivrance. Voilà, donc moi, j'ai fini ma première partie, juste un tableau extrêmement, extrêmement sommaire de l'Évangile, qui non seulement règle la question de notre dette devant Dieu, mais nous donne en Christ une vie nouvelle. Nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu et de marcher réellement en nouveauté de vie. Je vais laisser donc la suite à Philippe qui va nous parler plutôt de la dimension relationnelle maintenant. Et après, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux deux orateurs.
Merci, Reynald. Donc, moi, j'ai maintenant le privilège de vous parler. Merci beaucoup de votre présence. Par rapport à l'Évangile, principe moteur de la transformation dans toute la vie. Je vais montrer de façon concrète comment cet Évangile de la justification répond aux réalités de la vie. Vous allez penser à tout plein de situations que vous rencontrez dans l'Église et dans le monde. Et je vais montrer comment Paul, dans les chapitres 12 à 16 de Romains, montre comment l'Évangile répond concrètement à ces choses-là. Je rappelle juste que l'Évangile, c'est ce que nous avons vu avec Reynald par rapport à Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous. Jonathan Edwards a dit que Jésus n'a rien fait en tant que personne privée. Jésus n'a rien fait en tant que personne privée. Il a tout fait. Tout ce qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à la mort, il a fait en tant que représentant de l'humanité qui mettra sa foi en lui. Et cela veut dire que la justification que Dieu nous propose en Jésus-Christ est à la fois négative et positive. Négative en ce qui concerne nos péchés qui nous sont remis en Jésus-Christ. Dieu remet le compteur à zéro. Nous n'avons plus jamais rien à payer par rapport au péché commis. C'est réglé. Mais positivement, Jésus accomplit pour nous toute justice. Nous méritons, de par notre union avec lui, une vie nouvelle pour l'éternité, parce que lui, il l'a pleinement mérité par une parfaite obéissance au Père jusqu'à la mort. Et Romains 4, à la fin de ce chapitre, par sa résurrection, Jésus-Christ lui-même est justifié. Et nous, avec lui. Jésus n'a rien fait en tant que personne privée. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour vous. Votre justification à la fin ne dépend pas de vos œuvres, même si celles-là sont transformées par l'Évangile. Votre justification devant Dieu à la fin dépend entièrement de ce que Jésus a tout fait, pour vous et pour moi. Et Paul prend ces réalités-là qu'il vient d'exposer dans les chapitres 1 à 11 de Romains et il les applique à la vraie vie de l'Église et du monde dans les chapitres 12 à 16. Je cherchais une image pour communiquer cela à vous cet après-midi. Et vous admirez, j'admire en tous les cas Florent lorsqu'il traduit thème ou d'autres personnes. Pas facile de parler à la fois deux langues, d'être bilingue. J'aimerais suggérer maintenant que vous êtes tous bilingues et que Paul veut nous enseigner à parler une autre langue. Les deux langues que vous maîtrisez jamais, déjà, et moi compris, s'appellent le légalisme et le laxisme. Vous parlez couramment le légalisme. Vous parlez couramment le laxisme. Moi, je parle mieux légalisme que laxisme, quoique j'apprends très bien à parler laxisme ces dernières années, j'ai l'impression, avec tout ce que les médias me proposent à longueur de journée. Mais vous aussi, vous parlez couramment légalisme et couramment laxisme. Et selon le type d'église dont vous êtes issu, vous parlez mieux l'un que l'autre. Et selon le type de ministère que vous exercez, le type de pasteur que vous êtes, vous parlez mieux légalisme ou mieux laxisme. Paul veut nous encourager à apprendre à parler couramment évangile. À pouvoir prendre ce que l'on sait de cette justification magnifique que Dieu a établie pour nous dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. À parler cela face à tous les problèmes de la vie, face à tous les péchés qui nous guettent encore aujourd'hui. Parler couramment évangile. Je commence un peu à parler évangile. Je suis encore au balbutiement. Vous aussi. Mais l'idée derrière l'évangile 21, si j'ai bien compris, c'est bien de nous apprendre à parler évangile face à toute la vie, à répondre à toute la vie avec l'évangile. Je donne l'exemple de Pascal. Pascal s'est à nouveau converti dans l'église de Lagny et on remercie le Seigneur pour cela. Et je me rappelle très bien le jour de la conversion de Pascal. On était en train de discuter, il n'était pas chrétien, on se voyait et il me disait, tu sais quoi, j'en ai marre d'être impatient avec mon fils. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je parle légalisme, je vais dire, il ne faut pas être impatient, en fait, patient. Et donc, il faut te forcer à être patient. Si je parle laxisme, je vais dire, écoutez, ce n'est pas si grave que ça. Tout le monde, après tout, est un peu impatient. Essaye de ne pas le faire trop souffrir par rapport à cela, et puis ça passera. Si on parle évangile, qu'est-ce qu'on dit à Pascal, qui ne connaît pas encore le Christ, et qui veut progresser dans cela? Si on parle évangile, et par la grâce de Dieu, j'ai pu parler évangile ce jour-là, on dit quoi? On dit, Dieu en Jésus-Christ nous a montré une grande patience. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a montré son amour envers nous par Jésus-Christ, la personne et la justice et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on va à Matthieu 18 et on voit cette parabole magnifique où justement Jésus décrit la patience de Dieu envers nous, qui avons une dette énorme à payer. Nous ne pouvons rien payer, il est patient avec nous. Et puis je dis à Pascal, mais Pascal, cela ne peut pas te toucher si tu n'y crois pas. Si tu ne mets pas ta foi en ce Jésus qui est patient envers toi, tu ne pourras jamais transformer cette vision de la patience de Dieu dans une vision de patience de toi, papa, envers ton fils. Et donc il faut embrasser d'abord Jésus-Christ et ensuite le laisser te transformer pour qu'ensuite tu deviennes patient envers ton fils. Et la semaine d'après, gloire à Dieu, Pascal s'est converti et lorsqu'il a prié, il a prié la chose suivante. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, présents, passés, Et puis il ouvre les yeux et me regarde comme ça. Et à l'avenir, il finit sa prière. Il avait commencé à comprendre à ce moment-là comment parler l'évangile. C'est justement cela. Jésus-Christ, dans sa personne, dans son œuvre, dans sa mort, dans sa résurrection, nous comble complètement de la justice de Dieu et nous méritons, par notre union avec lui, la vie éternelle avec lui. Je n'ai plus rien à faire, que je sois transformé par l'évangile ou pas. Et ce n'est pas de ça que dépend ma justification et la vie éternelle avec Dieu. Ceci dit, lorsque j'ai compris ce Jésus-là, quand j'appuie, quand je malaxe ce Jésus-là dans ma vie de tous les jours, je vois que ma vie sera transformée. Et c'est ça l'objectif de Paul dans les chapitres 12 à 16 de Romains. Et lorsque nous regardons ces choses-là, nous verrons que Paul, dans ces chapitres, fait face aux choses suivantes. Je vais faire une liste de 13-14 choses. Lorsque je suis en train de parcourir cette liste, dites-vous que tous les problèmes auxquels vous faites face à l'Église, tous les problèmes que vous voyez dans le monde sont compris dans cette liste. Et si vous pensez à quelque chose qui n'est pas compris dans cette liste-là, je veux bien savoir à quoi vous pensez. Orgueil, égoïsme, paresse, vengeance, insoumission, manque d'amour, le péché et l'immoralité dans toutes ses formes, chercher son propre intérêt, les préjugés, les clans, le nombrilisme, un manque de zèle dans la prière, le faux enseignement, le découragement et l'essoufflement. Trop vite. Ah, vous allez les voir à l'écran, vous inquiétez pas. Ça va apparaître. C'était juste une liste. Pensez-y. Toute la vie est là-dedans. Et Paul va prendre ces choses l'une après l'autre et montrer que l'évangile peut être appliqué à chacune de ces situations. Et si on parle couramment à l'évangile, on va pouvoir faire face à ces choses-là et être transformé par l'évangile de Jésus-Christ, son œuvre et sa personne. Et c'est ce qu'il dit dans les versets 1 et 2 du chapitre 12. Paul dit, à cause de cette immense bonté que je viens de décrire dans 11 chapitres, cette immense bonté de Dieu. À cause de cela, je vous encourage, je vous invite à offrir votre corps, votre vie tout entière comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cela sera de votre part un culte spirituel. Là, c'est un résumé de ce qui va se suivre dans les versets qui suivent. Parce que l'évangile est vrai, soyez transformés par cet évangile-là, par cette bonté-là, pour que vos vies reflètent cet évangile dans tous les détails. Il reformule, il répète la même chose dans le verset 2 du chapitre 12. Il dit, au niveau des pensées, ce que Reynald disait justement, au niveau des pensées, saisissez, considérez ces choses. Prenez-les et les appliquez fortement à votre fort intérieur. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, le légalisme, le laxisme, mais parlez plutôt évangile. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voyez la transition. Par le renouvellement de notre pensée, par l'évangile, nous devenons capables de discerner dans le monde réel dans lequel nous vivons ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Et puis il commence à s'adresser à toutes les questions, tous les titres que je viens d'évoquer. D'abord, l'orgueil, l'égoïsme, la paresse. Il va parler de ces choses-là dans les versets 3 à 16 de Romains 12. Il va parler de la communauté de l'Église. Il va prendre ces thèmes-là, il va montrer que si on a compris l'évangile de grâce, on ne peut pas être orgueilleux et se vanter de ses dons. On ne peut pas être paresseux et laisser les autres faire. On ne peut pas être égoïste et chercher son propre intérêt. Mais l'évangile va nous apprendre à être différents, à agir autrement. À titre d'exemple, regardez le verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Paul, qui pourrait se vanter dans d'autres lieux d'être apôtre de Jésus-Christ, dit « Par la grâce que Dieu m'a faite ». Je vous encourage à voir vos vies en parallèle avec la mienne. Dieu m'a fait grâce pour être apôtre. Dieu vous a fait grâce pour avoir des dons à exercer dans l'Église. Considérez-vous donc pas comme supérieur aux autres. Soyez humbles par la grâce. Cette grâce-là, c'est un mot qui résume l'évangile de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour nous. Même chose dans le verset 5. S'il faut être unis dans le corps de Jésus-Christ, dans l'Église, c'est justement parce que nous appartenons chacun par la foi à Jésus-Christ. Le verset 5. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Quel Christ ? Ce Christ qui est mort pour nous. Ce Christ qui a tout fait pour nous en tant que notre représentant. Ce Christ qui nous justifie par sa résurrection et sa vie. Ce Christ-là, uni à lui, dans l'Évangile, nous vivons en harmonie les uns avec les autres. Face à l'orgueil, face à l'égoïsme, face à la paresse, l'Évangile de Jésus-Christ suffit amplement pour nous transformer si nous nous l'appliquons avec fidélité. Même chose pour la vengeance. La vengeance intervient au verset 17. Facile dans un monde où on est persécuté pour sa foi. C'était le cas à Rome, l'église à laquelle Paul écrit. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Il développe. Il ne faut pas chercher très loin pour voir en quoi cela est relié à la bonté de Dieu révélée dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que justement Jésus, lui, n'a pas répondu au mal par le mal, mais par le bien, par le don de sa vie à la croix. L'Évangile, lorsque je saisis l'ampleur, la largesse de l'Évangile, me permet de regarder mon ennemi et de lui pardonner et de lui faire du bien. Tout comme le Christ, en me regardant, son ennemi avoué m'a fait du bien. Chapitre 13, c'est l'insoumission aux autorités. Paul a fini son exposé de l'Évangile en mettant l'accent sur la toute-puissance, la toute souveraineté de Dieu. Tout est de lui, tout est pour lui, tout est par lui, a dit Paul. L'attitude que nous développons vis-à-vis de ce Dieu-là dans l'Évangile est une attitude de dépendance et d'obéissance totale. Ce Dieu-là est aussi à l'instigation des autorités humaines. Nous ne pouvons pas rechigner devant les autorités humaines si nous avons accepté l'autorité globale et totale de notre Seigneur Dieu. La soumission aux autorités est bien une caractéristique bien chrétienne et l'Évangile nous l'enseigne si nous sommes attentifs. S'il s'agit d'un manque d'amour, l'Évangile nous enseigne aussi de nous rappeler l'amour est ce qui nous incombe en tant qu'être humain. Verset 8 du chapitre 13. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a rempli toutes les exigences de la loi. Jésus, en venant, a rempli toutes les exigences de la loi pour nous, pour que nous, par la suite, nous pouvions suivre son chemin, suivre ses pas. Et aimer. Vous savez que l'amour, ce n'est pas une loi que Dieu a donnée particulièrement à Israël. L'amour, ce n'est pas une loi qu'il donne particulièrement à l'Église de Jésus-Christ. L'amour, c'est ce qu'on doit aux autres, qu'on doit aux autres, du simple fait qu'on se lève le matin et qu'on respire. C'est tout simple. Si je suis en vie, je dois aimer mon prochain. Je dois le voir avec les yeux de Dieu et l'aimer de la façon, tout comme Jésus, lui, dans l'Évangile, me montre l'exemple, me donne la puissance. 13, 14 nous montre que l'Évangile répond au péché et à l'immoralité dans toutes ses formes. Verset 13, on peut commencer à ce verset-là. « Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à satisfaire la nature pécheresse qui vous entraîne à convoiter. » Comment faire face à mes tentations sexuelles, à mes tentations vis-à-vis de la pornographie, à mes tentations par rapport à l'indulgence excessive dans l'alcool, dans la nourriture, ou peu importe le sujet. Comment est-ce que je peux faire face à cela? Si je parle couramment légalisme, je vais m'imposer des règles et je vais y tenir pendant un certain temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, trois mois, et puis je vais tomber. Si je parle couramment laxisme, je vais me dire, dans tous les cas, ce n'est pas la peine, je n'arrive jamais à m'en sortir. Et dans tous les cas, d'après ce que j'entends ici et là, tout le monde est pareil. Et dans tous les cas, Jésus m'a pardonné. Si je parle évangile, je vais relire ce verset et je vais me revêtir du Seigneur Jésus-Christ, à savoir de sa justification négative en ce qu'il pardonne entièrement tous mes péchés. Et aussi, cette justification positive, il a tout fait pour moi. Et je vais fixer les yeux sur ce Jésus-là. Je vais me revêtir de sa personne et de son œuvre. Et je vais malaxer ces choses profondément dans mon cœur jusqu'à ce que ça prenne. Et je vais éviter à tout prix d'y ajouter loi ou règle. Je vais me revêtir de Jésus-Christ. C'est intéressant dans Galates 3, 27, Paul prend cette même image pour parler du baptême. Tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Mais Paul prend cette même image pour parler de la continuation de la vie chrétienne. Je me revais continuellement, face au péché, du Seigneur Jésus-Christ. S'il s'agit de l'égoïsme ou de chercher son propre intérêt, Paul y vient dans le chapitre 14, où il va parler des faibles, des forts, et il va dire « Aucun de nous, verset 7, ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi tu le méprises-tu? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? » Vous voyez comment il prend l'évangile et comment il l'applique à ce problème-là de chercher son propre intérêt, de préférer ce que je préfère et de mépriser l'autre qui a une préférence autre. Paul tranche, pas pour l'un, pas pour l'autre, mais il dit, vivons tous pour l'autre, mettons tous l'intérêt de l'autre à la préférence de notre propre intérêt, parce que c'est comme ça que Jésus lui-même a vécu. Il poursuit dans ce même idée, dans le chapitre 15, verset 3. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Ou bien, verset 6 du chapitre 15, « Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » À chaque problème de l'Église de Rome, cette église multiculturelle, cette église persécutée, cette église mondaine, où il y avait des problèmes de péché et de jalousie, Paul applique fois après fois l'évangile. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est la façon dont il fait la transition entre cela et la suite. Parce qu'il a parlé des faibles, des forts, de préférer l'autre plutôt que soi-même, et puis il commence à vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. Dans cette église multiculturelle, où il y a des clans, ça vous rappelle quelque chose? Des églises avec des clans? Des églises où il y a des problèmes de clan à clan? Regardez comment Paul s'adresse à ce problème-là à partir du verset 7 du chapitre 15. Et regardez avec moi comment il fait la transition entre « c'est impossible dans l'Église d'avoir des clans » jusqu'à dire « c'est impossible dans l'Église de ne pas s'intéresser à la mission mondiale de Dieu ». Et c'est exactement le même argument. Et l'argument, c'est l'Évangile. Verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Le problème d'un clan dans l'Église, ce n'est pas tant la division, c'est que le clan nie la réalité de l'Évangile. Dieu nous a accueillis en Christ. Et de cela, il va parler de les nations unies en Jésus-Christ. Regardez avec moi le verset 11. S'il est impossible au sein de l'Église d'avoir des clans, c'est parce que Dieu est le Dieu de toutes les nations de manière indifférente. Ou encore, il cite l'Ancien Testament, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples l'acclament. » Et puis il applique profondément au niveau du cœur cet évangile-là, verset 13 du chapitre 15, « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Il enchaîne tout de suite en disant la raison pour laquelle il a passé 11 chapitres à expliquer l'Évangile, pourquoi il a expliqué pendant 4 chapitres comment l'Église doit vivre sur cette terre à Rome, pour leur dire la raison pour laquelle je vous ai dit tout cela, c'est parce que je veux que cet Évangile-là, malaxé dans votre cœur, vous aide à lever les yeux pour regarder le champ de mission de Dieu sur cette terre. Les versets 20 à 24. Je me suis fait un point d'honneur de ne proclamer la bonne nouvelle que là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais qu'en aucun cas bâtir sur les fondations posées par autrui. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est aussi cette raison qui m'a empêché bien de fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous. Et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. La même attitude qui rend impossible les clans au sein d'une église locale rend impossible le désintérêt pour la mission de Dieu là où Christ n'a pas encore été nommé. L'Évangile transforme toute l'Église, toute la vision de l'Église pour faire de cette Église une Église en mission. Je termine avec le chapitre 16, le verset 20. Face aux faux enseignements, Paul dit, rappelez-vous, le premier faux enseignant de toute l'histoire. Vous vous rappelez du serpent ? Le serpent qui s'est glissé dans le jardin, qui a corrompu la relation saine que Adam et Ève avaient avec Dieu, entre eux deux et avec la création. Rappelez-vous de cela. Résistez aujourd'hui, les faux docteurs. Et le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser sous vos pieds Satan lui-même. Une église qui a compris l'évangile, chapitre 1 à 11, qui parle couramment évangile pour l'appliquer à toutes les situations de la ville, Dieu se sert de cette église-là pour écraser encore aujourd'hui Satan, le serpent, sous nos pieds. Voilà comment l'évangile répond à toutes les questions de la vie, de l'église, du monde, du péché, de l'orgueil, de l'égoïsme. Comment l'évangile répond à toutes les ruses de Satan. Et comment Jésus prend cet évangile dans l'Église pour aujourd'hui encore écraser le serpent. L'évangile est vraiment puissance transformatrice, principe et moteur de transformation lorsque nous fixons les yeux sur Jésus, sa justice, sa mort pour nous. Allons-y, écrasons ensemble le serpent sous nos pieds par l'évangile de Jésus-Christ.
Merci.